VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. La République démocratique du Congo a enregistré son premier cas confirmé de coronavirus selon les autorités sanitaires du pays. Les détails avec Eddy Sango.
Le patient est un Congolais de 52 ans vivant en France, récemment retourné à Kinshasa, la capitale congolaise. Le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a indiqué à VOA Afrique que le malade est présentement mis en isolement dans un hôpital de la place et que tout était fait pour retrouver toutes les personnes contact. Le gouvernement appelle à ne pas paniquer et demande aux citoyens une stricte observance des règles d'hygiène, entre autres le lavage régulier de mains. Des sites de prélèvement des températures et des examens préliminaires sont installés au poste des frontières. Un camp d'isolement est construit dans la périphérie de Kinshasa pour des cas qui apparaîtront plus tard. La RDC est en train de sortir d'une épidémie d'Ebola qui a, en plus de deux ans, fait plus de 2264 morts dans l'Est. 3444 cas ont été diagnostiqués, mais il faut attendre 42 jours depuis que le dernier cas a été guéri pour qu'Ebola soit déclaré vaincu en RDC.
Politique en Tanzanie, 9 opposants tanzaniens dont des députés ont été condamnés hier mardi à une forte amende ou à 5 mois de prison ferme pour avoir organisé une manifestation interdite en 2018. Le point avec Nani Talani.
Les accusés, dont le président du parti Chadema, Freeman Bowie, 4 députés et 4 autres opposants ont été placés en détention provisoire car ils n'ont pas pu payer l'amende de 350 millions de shillings tanzaniens, soit 152 000 dollars américains fixés par le juge. Nous sommes allés au tribunal en croyant que nous pouvions gagner. Cependant, cette condamnation ne nous empêchera pas de nous battre pour la démocratie dans ce pays, a déclaré le vice-président du parti, Saïd Issa Mohamed, après le verdict. Selon lui, le Chadema, le principal parti d'opposition en Tanzanie, essaie de réunir les fonds nécessaires et envisage de faire appel. En 2018, Freeman Bowe et les autres condamnés avaient été accusés de rébellion, de rassemblement interdit et d'incitation à la violence à l'occasion d'une manifestation interdite au cours de laquelle la police avait tiré à balles réelles pour disperser les partisans de Chadema. Un étudiant de 22 ans qui ne participait pas à la manifestation avait été tué par une balle perdue de la police.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Burkina Faso, l'opposition a exigé mardi une enquête indépendante après les attaques qui ont fait 43 morts dimanche dans 3 villages Peul du nord du pays. Plus de détails avec Bagassi Koura.
L'opposition s'est dite indignée par le massacre de 43 civils. Au regard de la gravité de ce drame et de la confusion qui l'entoure, l'opposition exige une enquête indépendante, a déclaré Amadou Diemdioda Diko, vice-président de l'Union pour le Progrès et le Changement, lors d'une conférence de presse qui avait réuni toute l'opposition. Dans un communiqué, le gouvernement burkinabé affirmait que ce crime de masse a été perpétré par des individus armés non identifiés, alors que de son côté, des sources locales jointes par l'AFP, les assaillants sont des groupes d'autodéfense qui agissent en représailles aux attaques djihadistes. Le gouvernement a aussi souligné que le procureur du Faso avait été saisi pour toute fin utile. La présidence a décrété lundi un deuil de 48 heures en hommage aux 43 civils tués dimanche dans plusieurs attaques dans le nord du pays en proie à de fréquentes attaques djihadistes. En plus, les tensions y dégénèrent périodiquement en violence intercommunautaire.
Toujours concernant la lutte contre les djihadistes dans le Sahel, les opérations anti-djihadistes des Européens dans cette région ne sont ni suffisantes ni assez coordonnées. C'est ce qu'a estimé mardi un haut responsable militaire américain en soulignant que les groupes djihadistes sévissant au Sahel visent davantage l'Europe que les États-Unis. Je pense que l'Europe peut et doit en faire davantage avant que les États-Unis en fassent plus dans cette partie du monde, a déclaré le général Stephen Townsend, chef de l'Africom, le commandement militaire américain pour l'Afrique, lors de sa déposition à la Chambre des représentants du Congrès sur la posture militaire américaine en Afrique. Alors que les élus s'inquiétaient du risque pour les États-Unis d'un retrait militaire américain du Sahel, le général Townsend a estimé que les djihadistes opérant de cette zone étaient plus dangereux pour l'Europe que pour les États-Unis.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Actualité américaine toujours, conflit en Afghanistan, le général Kenneth McKenzie, dont la zone d'activité comprend le territoire afghan, a révélé hier que les États-Unis avaient apporté une aide limitée aux talibans pour qu'ils combattent le groupe État islamique dans le pays. L'un des principaux engagements sécuritaires pris par les insurgés afghans dans leur accord de paix avec Washington. Le point avec Ekia Badou.
Le général Kenneth McKenzie, chef du commandement central de l'armée américaine qui couvre l'Afghanistan, était questionné par les élus de la Chambre des représentants sur la situation sur le terrain après la signature de l'accord avec les talibans le 29 février à Doha. Ces derniers mois, dans l'est de l'Afghanistan, nous avons observé les talibans contenir et écraser une présence de l'État islamique sur le terrain dans la province de Nangarhar. Et ils l'ont fait avec beaucoup d'efficacité. Il y avait un soutien très limité de notre part, a déclaré le général McKenzie. Il a révélé pour la première fois une coopération militaire entre les États-Unis et les talibans, sans préciser la nature de ce soutien. Le général McKenzie s'est déclaré moins optimiste à propos de la volonté des talibans de combattre Al-Qaïda, l'organisation djihadiste responsable des attentats du 11 septembre 2001, préparée alors avec le soutien des talibans. Il a ajouté que l'armée américaine n'avait encore préparé aucun plan militaire de retrait total d'Afghanistan, elle a commencé à se retirer de deux bases dans le pays. Selon le texte de l'accord, le nombre de soldats américains sur place doit passer de 12 ou 13 000 à 8 600 d'ici mi-juillet.
Politique américaine maintenant, course à la présidence côté opposition démocrate. Les démocrates ont tenu d'autres élections primaires hier dans le cadre de leur campagne pour choisir leur candidat à la magistrature suprême qui affrontera le président républicain Donald Trump à la présidentielle de novembre. Les scrutins ont eu lieu dans 6 États, Michigan, Missouri, Dakota du Nord, Mississippi, Idaho et l'État de Washington. L'ex-vice-président Joe Biden a battu son rival Bernie Sanders dans au moins 3 de ses États, dont le Michigan. Idrissa Sedoudia a d'abord demandé à notre confrère René Lick pourquoi le Michigan et aussi le Missouri étaient si importants.
Écoutez, ces deux États étaient particulièrement importants parce que vous vous souvenez, en 2016, Sanders avait battu Hillary Clinton dans le Michigan. Et la composition ethnique, la composition communautaire du Michigan est normalement plutôt favorable à quelqu'un comme Bernie Sanders. Donc de tous les États, et en plus de ça, le Michigan, c'est l'État où il y avait le plus de délégués aux primaires. Donc gagner Michigan était presque un must pour Bernie Sanders et il l'a perdu. Dans la journée, je disais que si Bernie perdait aujourd'hui Michigan, je ne voyais pas trop quel pourrait être le chemin de victoire pour lui dans ses primaires et je ne voyais quasiment pas la possibilité de rester trop longtemps encore dans la course.
Justement, on va y revenir tout à l'heure, mais par rapport au Michigan, le Mississippi aussi a voté massivement pour Joe Biden et on parle encore une fois de l'élément déterminant, le vote des Noirs.
Les Noirs qui constituent la majorité de l'électorat chez les démocrates, hein, bien entendu. Hein. On parle ici des primaires démocrates. Et la victoire de Biden sur Bernie tournerait autour de 65-66 points de différence. Et vous savez, Idrissa, si regardez les 3 États qui ont été déjà annoncés et qui sont confirmés au moment où on se parle, l'écart est quand même important, 66 points, 26 points pour le Missouri, 15 points quasiment pour le Michigan. Vraiment, c'est un knockout pour un super Tuesday numéro 2.
Comme vous le savez, Bernie Sanders est retourné dans le Vermont, son État, et il n'a rien dit. Il devait se rendre dans l'Ohio, tout comme M. Biden. Mais le gouverneur de l'État leur a demandé, pour raison de coronavirus, de ne pas venir. Mais quand même, on pouvait s'attendre à une déclaration dans le Vermont de M. Bernie Sanders. Est-ce à dire qu'il a vu que c'était fini et...
Je ne sais pas. Bon, en tout cas, moi, il me semble que la cause est quand même relativement entendue à ce stade-ci. Bon, il y reste quand même 3 États où... on n'a pas encore les résultats, Washington, North Dakota et Idaho, mais dans tous les cas, globalement, la victoire de Biden, elle est manifeste. Mardi prochain, au Tuesday, Super Tuesday numéro 3, pratiquement tous les États où il va y avoir une élection, Biden sera favori, largement favori.
Notre confrère René Lé, au micro d'Idrissa Sedoudia. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.